Et bonjour à tous. En ce début de week-end, un salut fraternel. Et de fraternité, il en sera question ce matin. Bienvenue sur Radio Libertaire, la radio qui n'a ni pub, ni système hiérarchique. Si le réveil pique encore un peu, confectionnez-vous tout type d'infusion, d'un bon arabica au maté le plus audacieux, qu'importe la molécule, pourvu que vous ayez le réveil. C'est le chiffon qui radote. Et s'il radote avant la dégénérescence de l'âge, c'est que les choses ont été dites, ou plutôt écrites, dans le chiffon. Oui ? Vous avez bien entendu, Le Chiffon, le journal indépendant de Paname et sa banlieue. Journal régional d'enquête, de réflexion et de dissection du temps présent. Technocritique ou en tout cas vigilant sur ce qu'on présente toujours comme le progrès. Le tout agrémenté de personnalités qui dessinent une autre Île-de-France. D'ailleurs, si vous avez des idées, notre petite équipe ne tend qu'à s'étoffer et cherche toutes les bonnes volontés. Des coups de gueule, des coups de cœur, des enquêtes, proposez-nous. Rassurez-moi, j'ai bien dit indépendant ? Eh oui, point de financement directif ou autre pression du chiffre, réalisé à la seule volonté de petites mains bénévoles, sans autre ligne éditoriale que ce qu'il se passe dans la région et l'œil aussi ouvert que possible sur le monde. Et il est vrai, une ligne cardinale officieuse de ne pas trop s'en laisser compter. Chaque mois, un thème de réflexion, une lutte, un combat, une bouteille à la mer pour mieux comprendre les enjeux du monde d'après. Ce matin, si le salut s'est voulu fraternel, c'est que nous allons évoquer la troisième partie de la devise nationale, souvent malmenée, la fameuse fraternité. Grand remplacée par une farandole d'arguments plus passionnels que rationnels. À mes côtés ce matin, deux personnalités hors normes dont les parcours de vie diffèrent mais dont les combats se rejoignent. Privilège d'aînesse, d'abord Claudine, bénévole au Secours catholique, dévouée à l'aide à la régularisation après une vie passée en préfecture. Nous reviendrons dans un instant sur votre parcours, mais pouvez-vous vous présenter aux auditeurs toujours en voie de réveil ? Bonjour Claudine.
Bonjour, je suis donc Claudine, retraitée depuis bientôt 5 ans. Et je me suis jetée à corps perdu dans le bénévolat en essayant de faire profiter de mes compétences le secours catholique et notamment la partie migrants, accompagnement des migrants. Donc ça fait déjà 3 ans que j'accompagne des migrants pour essayer de mettre le pied à l'étrier. Voilà.
Merci beaucoup, on reviendra un instant sur votre parcours. Ma seconde invitée a été sensibilisée jeune aux injustices en vivant notamment les violences urbaines de 2005 au premier plan. Ayant d'abord envisagé l'ENA, elle deviendra finalement avocate après avoir étudié à l'étranger auprès de ses futurs confrères. Parlant plusieurs langues, ayant voyagé au plus près de ceux qu'elle aide aujourd'hui, passée par France Terre d'Asile, Maëla, bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter auprès de votre radio aujourd'hui. Alors effectivement, moi je suis avocate aujourd'hui et j'en suis très fière parce que c'est pas forcément le milieu d'où je viens à l'origine. Et donc j'ai décidé de faire ce métier pour lutter contre les inégalités. C'est un combat qui me tient à cœur depuis toute petite, ayant été élevée par une mère célibataire. Et donc c'est vrai que les combats, toutes les formes d'injustice sont des sujets qui sont très, très importants pour moi. Vous l'avez dit, j'ai eu la chance de voyager dans le cadre de mes études qui m'ont permis donc de travailler notamment dans les camps de réfugiés. J'ai pu apprendre l'arabe et apprendre le persan qui me permet également de pouvoir échanger en direct avec certaines populations d'exilés, puisque je décide de parler d'exilés, puisque je pars du principe que les personnes qui se retrouvent aujourd'hui sur notre territoire, malgré elles, n'ont pas choisi ce parcours de vie. Et donc, effectivement, on va pouvoir en parler davantage aujourd'hui.
Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, deux personnalités autant couleurs qui se rejoignent. Et pour démarrer, j'aimerais vous interroger sur un mouvement de fond que pointait le sociologue Geoffroy de Laganerie, qui évoquait l'idée que les diplômés ayant une sensibilité humaniste, ou disons, osons les mots, de gauche, n'avaient plus de velléité d'occuper des postes de pouvoir dans le système. Mais ils préféraient l'avocature ou d'autres emplois libéraux loin de la hiérarchie administrative. D'abord, à toutes les deux, de quoi ce mouvement procède-t-il à votre avis? D'un découragement, d'une impuissance.
Je peux. Alors effectivement, alors sur cette question, c'est intéressant parce que je m'y retrouve partiellement. Parce qu'effectivement, j'ai intégré Sciences Po après mon bac pour pouvoir faire l'ENA à l'origine, c'était mon projet, pour pouvoir, c'est mon projet. et effectivement, au fur et à mesure de mes études, je me suis rendu compte que la technocratie et cette vision un petit peu très technique, hein, finalement, du pouvoir, n'était pas la plus utile pour pouvoir changer les choses. Alors, je par rapport à ce que monsieur de la Gannerie, professeur de la Gannerie, évoquait, je pense que j'en fais partie dans le sens où j'ai voulu participer à un changement autrement. Le métier d'avocat n'est pas non plus révolutionnaire en termes d'intégration des systèmes de pouvoir, mais je pense que ça reste une étape, c'est-à-dire que pour moi, l'objectif politique reste réel, parce que les lois sont faites par les parlementaires encore, même si c'est beaucoup par le gouvernement en ce moment. Et ça reste quand même une réalité. Si on veut changer les choses, je pense qu'il faut accéder à certaines sphères de pouvoir. Elles sont variées. Il faut des personnes, à mon sens, à l'intérieur, à l'extérieur. Mais c'est vrai que le métier d'avocat est plus venu pour moi d'un processus de vouloir comprendre, d'être en phase avec le terrain et d'avoir une expérience de vie concrète avant de pouvoir intervenir sur justement la sphère politique qui, à mon sens, ne doit pas être professionnelle.
Très bien. Claudine, une réflexion sur ce qui vient d'être dit ?
Oui, je pense quand même que c'est difficile de dire que les sphères de pouvoir sont désertées par la gauche. Et si je prends l'exemple de l'administration, moi qui ai fait l'essentiel de ma carrière au ministère de l'Intérieur, je pense qu'il y a des gens de gauche aussi parmi les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, parmi donc les effectifs du pouvoir. Du ministère de l'Intérieur, on peut trouver ce type de sensibilité. En tout cas, j'espère que ce n'est que un mauvais passage et qu'on arrivera à avoir des sensibilités, des gouvernements de gauche dans un avenir assez proche.
Vous m'avez dit tout à l'heure, vous aviez la vingtaine dans les années 70. Vous avez rejoint la préfecture un tout petit peu plus tard. Dans quel état d'esprit vous avez rejoint
Dans une profonde ignorance, en réalité.
C'est très honnête de le dire comme ça.
Voilà, j'ai passé des concours et j'ai toujours été, enfin, par mon éducation, ma formation, j'étais plutôt du genre légaliste. Donc, avant d'imaginer une quelconque contestation, je pensais qu'il fallait appliquer des lois qui, finalement, avaient été votées par le Parlement et que, sauf si l'ordre est illégal, c'est ce qu'on m'avait appris en droit administratif, le fonctionnaire n'avait pas vocation à s'émanciper de l'application de la loi. Et puis, c'est vrai que l'expérience venant, on peut imaginer que le fonctionnaire peut quand même apporter sa pierre à l'édifice et puis soumettre des décisions un petit peu en marge de la loi à sa hiérarchie. Et ça, c'était possible en matière d'étrangers dans les années 90-2000, ce que j'ai bien connu à l'époque.
D'accord, et c'est à ce moment-là que le durcissement de la législation qui a fait que vous avez petit à petit...
Oui, alors, j'ai envie de dire que le durcissement, il était relatif, parce qu'on en est quand même à la 22e réforme en 40 ans du droit des étrangers, ce qui n'est pas rien, et que des vagues de régularisation, y compris à l'époque de Pasqua, qui, à ma connaissance, était quand même quelqu'un d'assez réac, eh bien, ces vagues de régularisation, elles ont permis de sortir de l'ornière un certain nombre de migrants. Mais je pense que la population française peut être orientée par les mouvements du Front National. Cette population s'est durcie dans ses convictions et du coup, la réglementation a pu se durcir après. Alors moi, j'ai quitté le domaine des étrangers dans ma vie professionnelle, on va dire en 2012. Donc ça remonte un petit peu. Et je redécouvre aujourd'hui cette réglementation par le biais de l'accompagnement des migrants à titre de bénévole au Secours catholique. Et je suis effarée. Aujourd'hui, je suis effarée parce que je vois bien que certaines personnes qui ont énormément d'ancienneté sur le territoire français ne sont toujours pas dans les clous. Et ça, pour moi, c'est incompréhensible. L'histoire des 10 ans de présence qui n'existent plus dans la législation, voilà.
D'accord. Mais là, une réflexion sur le parcours de Claudine.
Non, c'est effectivement très intéressant de voir que vous avez été donc amenée à travailler dans la préfecture, comme vous le dites, sans conviction particulière à l'origine. Et puis finalement, en fait, le fait de voir la réalité sur le terrain vous a poussé à aujourd'hui faire ce que vous faites. Et c'est effectivement très enrichissant et encourageant. mais c'est vrai que c'est très frustrant, en tout cas, quand on est du côté aujourd'hui du conseil et surtout de l'accompagnement des personnes en préfecture aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile d'accéder même à la préfecture aujourd'hui.
Bien sûr.
Surtout en région parisienne, c'est quasiment impossible, en fait. On se fait jeter manu militari, vraiment, en tant qu'avocat, accompagné hein, avec la personne en demande de ses droits, hein, parce qu'on parle d'être humain. Et c'est vrai qu'il y a une détérioration terrible
des
conditions et de vie de ces personnes, et d'accueil, bien sûr, et de gestion avec les administrés, en fait, parce que ce sont des humains, même si on essaye de faire croire le contraire.
Et du coup, Claudine, vos quelques années au Secours catholique, quel regard rétrospectif vous portez sur votre carrière maintenant que vous êtes confrontée à cet arbitraire-là ? Est-ce que vous avez des...
Alors, on a toujours tendance à dire « c'était mieux avant ». J'en suis pas absolument persuadée, parce que, bon, à l'époque, je n'avais pas un point de vue, un regard national sur la façon dont les étrangers étaient reçus. À mon petit niveau, j'essayais d'être humaine et d'imposer cette règle à mes collaborateurs. Je ne supportais pas qu'on parle mal à un étranger. Et même à l'époque où c'était encore possible de faire des interpellations au guichet quand la personne était recherchée, je me débrouillais pour que ça se passe à l'abri des regards. Je faisais sortir la personne de la salle et je demandais qu'elle soit traitée du mieux possible. Mais il y avait accès au guichet à l'époque. Il y avait accès au guichet. Donc ça, manifestement, avec l'administration tout électronique, ça n'existe plus, cette possibilité-là. Et je pense que c'est même pas, on peut même pas dire que c'est plus confortable pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires se plaignent aussi de ces conditions de travail où on ne voit plus la personne, qui ne peut pas déposer non seulement toutes ces pièces, mais argumenter aussi et éventuellement ajouter des choses par rapport aux documents qui sont scannés. Et donc pour les fonctionnaires eux-mêmes, je pense que c'est très frustrant. Donc on le ressent très bien quand on a des réunions avec la préfecture de police. Puisque actuellement, j'accompagne des personnes sur Paris. Donc, voilà, il y a probablement un durcissement des conditions réglementaires, mais un durcissement des conditions matérielles d'accueil. Et ça a été pointé du doigt par le Conseil d'État, qui a exigé qu'il y ait des alternatives, qui ne sont toujours pas appliquées d'ailleurs, puisque les points d'accès numériques, c'est nul. Il faut déjà prendre rendez-vous pour avoir accès à un point d'accès numérique. Donc, en réalité, c'est nous qui faisons les intermédiaires, c'est-à-dire les bénévoles et toutes les associations qui s'occupent de cela.
On reviendra en deuxième partie sur le pouvoir discrétionnaire du préfet, mais ce que vous dites, c'est que du coup, le manque de contact humain fait que le peu que vous aviez comme marge de manœuvre, de compréhension et d'entendement profond du dossier, n'est plus là du fait de la numérisation.
Oui,
vous,
tout
en
à
tant
fait.
Que fonctionnaire, vous, oui, vous êtes derrière un ordinateur et forcément, vous, on ne parle plus de personne, on parle du dossier numéro X.
Et effectivement, c'est un vrai problème et on le voit donc au travers de ce que vous venez d'expliquer sur la numérisation des dossiers pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir demander un titre. Et, mais ça se retrouve aussi sur l'écoute des exilés dans le cadre des procédures contentieuses, puisqu'il y a justement dans le projet de loi, on en reparlera peut-être, une logique de normalisation de la visioconférence. Donc il y a un processus de déshumanisation clair où en fait on digitalise tout et on empêche la personne de pouvoir s'exprimer, d'être en contact direct avec un autre être humain qui se trouve être un juge, et on empêche ça. Et ça, c'est une logique qui est entreprise depuis une dizaine d'années, et là aujourd'hui on est en train vraiment de l'entériner en fait, tout simplement.
On sent que pour vous, c'est quand même très prégnant et vous prenez ça très à cœur. Est-ce que vous voyez accomplir ce métier toute votre vie ou est-ce que c'est peut-être trop difficile, il faudra aller plus haut?
Non, alors pour moi, c'est vrai qu'effectivement, le métier d'avocat est quand même... Ça n'engage que moi. Je pense que c'est le plus beau métier du monde parce qu'on est vraiment au contact des gens et on a... Alors malgré la frustration justement de l'encadrement des lois et ben, mine de rien, de l'arbitraire en droit des étrangers et finalement de l'appréciation souveraine des juges dans la majorité dans tout cadre juridique, on a quand même un pouvoir d'interprétation des textes, de faire valoir le droit international. Quand même, la France, on va quand même essayer de trouver des points positifs. On est un système moniste, c'est-à-dire qu'en fait, on a un système juridique qui nous permet, dans les juridictions nationales, d'invoquer le droit international. Alors, c'est sûr, les juges français vont avoir tendance à vouloir privilégier le droit national, mais quand même, il y a des valeurs, notamment humanistes, que l'on peut faire valoir devant les juridictions, et ça fonctionne. Et en fait, ce métier, pour moi, est effectivement important parce qu'il permet... une évolution du droit. C'est quand même aussi avec les avocats que certains magistrats peuvent décider de nous suivre et si on leur donne la bonne recette de cuisine, ils peuvent la prendre. Et ça, c'est un métier important. Donc pour moi, je pense effectivement vouloir continuer ce métier jusqu'à ce que je pourrais. Pour la petite anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais mon modèle, c'est quand même Gisèle Halimi. Et elle a toujours été, je pense, au front.
Juste avant la pause, Claudine, comment vous voyez votre avenir à vous, avant que nous parlions de la France ensuite, dans les prochaines années? Allez-vous continuer? Êtes-vous fatiguée?
Alors, il se trouve que pour l'instant, je touche du bois, je suis en bonne santé en tant que retraitée, donc je peux encore continuer un petit peu. Si Dieu me prête vie, j'essaierai de poursuivre cet accompagnement des étrangers, parce que je considère qu'en France, et à Paris en particulier, les plus pauvres des pauvres, ce sont des migrants sans papier. Et donc, c'est un véritable scandale. Et donc, on ne peut pas être insensible à ce scandale-là. Et si je peux le faire, je continuerai pendant quelques années. Ainsi que mes collègues du Secours catholique, qui sont pour certains d'anciens magistrats, et qui eux aussi ont cette perception-là.
Mais ça, je peux témoigner personnellement de l'ambiance qui règne au Secours catholique et et du dévouement des bénévoles qui viennent de tous horizons. Donc après ce premier tour des personnalités réunies ce matin, avant de préciser quelques statistiques dans ce sujet brûlant, la preuve en musique d'un métissage réussi Mali-Algérie avec Tinari Wen, Rasta Nakam. Mettre l'ordi à... Et re-bienvenue sur Radio Libertaire. Pardonnez-nous, nous sommes encore amateurs et malheureusement, ce magnifique métissage musical qui marche en musique n'a pas marché ce matin. Donc je vous recommande en tout cas l'écoute de ce groupe fantastique, Tinari Wen. Revenons sur Terre, hein, après cette brève coupure, le pire en radio, à savoir un blanc. Et entamons tout de suite le vif du sujet en commençant par les formes de régularisation et l'asile en France. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais rappeler qu'une nouvelle loi immigration est actuellement en débat au Parlement, débat que nous évoquerons en fin d'émission. Mais ce sont en 2019 plus de 154 000 personnes, dont 34 000 enfants, qui ont formé une demande d'asile en France, soit une multiplication par 3 par rapport à 2010, d'après la Cour des comptes. Un point fondamental qui doit être porté à la connaissance de tous, et je vous invite à ouvrir les oreilles, c'est que parmi les défauts de la loi actuelle figure celui de l'interdiction à tout demandeur d'asile de pouvoir travailler les 6 premiers mois du dépôt de sa demande. Beaucoup vont donc être contraints de dormir à la rue ou de travailler au noir, dans les cuisines de vos restaurants favoris, et d'autres se tournent vers un système déjà saturé, l'hébergement d'urgence, dont vous trouverez un article dans notre numéro 8 tout juste paru en librairie. Avant de parler du cœur de votre action, Claudine, d'abord, quel regard vous portez sur les évolutions dont vous avez été témoin depuis 40 ans aux premières loges en préfecture ? Est-ce que votre vision du droit a évolué ?
Est-ce que ma vision du droit a évolué ? J'ai envie de dire, je ne suis pas une vraie juriste de par ma formation. Donc, de plus, j'ai exercé d'autres métiers que celui du droit des étrangers. Donc, mon expérience a été entrecoupée. Ce que j'ai vu, c'est que ce que je peux quand même constater et dire, c'est que ce droit s'est horriblement complexifié. Donc, c'est valable pour les fonctionnaires qui appliquent, c'est valable pour les juges. Je ne parle même pas du travail des avocats, mais quand je me suis remise au Secours catholique à faire du bénévolat, il a fallu quand même que je remette le pied à l'étrier, et j'ai trouvé que la circulaire Valls, c'était quelque chose de pas si évident que ça. Cette circulaire qui remonte à 2012.
Qui n'est pas impérative.
Qui n'est pas impérative.
On a un texte qui flotte comme ça, qu'on peut utiliser ou pas.
Voilà, mais je trouve que on cherche parfois des noix sous les saules, comme on disait chez moi. C'est-à-dire.
Voulant dire.
chercher des noix sous les saules, c'est-à-dire se compliquer l'existence à chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est pas du tout évident de s'y retrouver. Pas du tout.
Et vous n'êtes pas la seule à le dire. Hein. La Cour des comptes, un rapport du Conseil d'État, pointe la complexification extrême qui noie les tribunaux administratifs, qui se retrouvent à nager avec des textes
inefficaces. Et je renvoie ce rapport parlementaire qui m'a beaucoup marqué, de Sébastien Nadeau, président de la commission d'enquête de 2021, et qui est très virulent, très très virulent sur ce droit des étrangers qui n'est pas humain, mais qui en plus est très complexe.
Maëlla, aux premières loges.
Oui, sur la complexification, alors effectivement pour les avocats, mais en fait en première ligne pour les intéressés.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est compliqué pour un magistrat, pour un avocat qui est censé avoir fait beaucoup d'études et être reconnu comme une élite dans ce pays. Et finalement, personne n'y comprend rien. Alors quelqu'un qui a des difficultés à s'exprimer en français quand il parle français, ou qui n'a pas fait d'études parce que voilà, la vie fait que c'est plus compliqué, c'est un vrai calvaire. Et le défenseur des droits, vous avez cité également donc le Conseil d'État, la Cour des comptes, mais le défenseur des droits aussi le rappelle dans un avis du 23 février 2023 que j'invite à regarder, puisqu'il critique le projet de loi actuel, et il reprend l'historique aussi de manière très brève, hein. c'est un avis qui fait un peu moins de 20 pages de mémoire. Donc c'est très bien fait, c'est très clair, et on comprend cette complexification qui est dénoncée également par justement les agents de préfecture, les praticiens du droit et bien sûr les principaux concernés.
Puisqu'on a les violons, nul n'est censé ignorer la loi
et la cohorte
de clichés. Mais vous me parliez des problèmes de traduction. Vous aviez eu à,
oui,
à recadrer une traductrice indélicate.
Alors si sur, les, oui, sur les problèmes de traduction, alors là, c'est pour un dossier d'asile. Donc c'est un pan du droit des étrangers qui est encore à part. Et donc, normalement, il y a effectivement des traducteurs qui doivent être mis à disposition donc des demandeurs d'asile dans le cadre de leur procédure. Et parfois, alors c'est un peu moins le cas, je crois, aujourd'hui. Je crois qu'il y a une amélioration par rapport à une époque, notamment sur la langue arabe, où en fait l'arabe est une langue très riche, avec énormément de différences entre pays, entre même rues. Une blague en arabe qui est de dire qu'il y a autant d'arabe que de rue dans le Moyen-Orient. Donc effectivement, c'est difficile et on avait tendance à assigner un traducteur arabe, mais on ne savait pas si c'était de l'arabe marocain, de l'arabe algérien, de l'arabe libanais. On n'avait pas de précision et donc la personne se retrouvait avec quelqu'un qu'elle ne pouvait pas comprendre.
Absolument pas. Un traducteur européen.
Exactement, tout à fait. Vous vous retrouvez avec un Allemand qui est censé vous traduire en français. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc bon, là, je crois qu'aujourd'hui, on est quand même un petit peu mieux, mais il y a encore des difficultés. Et donc, il y avait cette anecdote avec un demandeur d'asile iranien. C'est une procédure récente, hein, j'insiste, parce que c'est quand même dans un contexte aujourd'hui, on est quand même un petit peu informé de la situation en Iran. Et donc, cette personne se retrouve devant un agent OFPRA, donc un officier de protection. C'est important de rappeler que c'est un officier protection. Et donc, il était assisté d'un traducteur qui, s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Je ne pense pas que le traducteur était de mauvaise foi, mais il se trouve qu'il y a eu une difficulté de compréhension entre les parties. Et l'agent de protection, au lieu de s'interroger sur le fait que peut-être il y avait un problème de traduction, parce qu'effectivement, il y avait des contradictions qui ressortaient des échanges, il a tout de suite été agressif. Hein, parce que c'est vraiment le terme, hein, il était agressif envers le demandeur d'asile en lui demandant d'écouter les questions. Les questions, c'est l'officier de protection qui les pose en français. Il y a ensuite un intermédiaire, un traducteur qui retranscrit et qui parfois se trompe. Et se trompe sur des nuances. Donc là, par exemple, le cas que j'ai en tête, c'était l'officier de protection demandait si le demandeur d'asile était encore en lien avec sa famille. Et le traducteur, pour une raison, je pense, pas de son fait, hein, encore une fois, il n'est pas mis en cause, a traduit « Est-ce que vous êtes encore en lien avec votre mère ?» Et donc le demandeur d'asile a répondu « Oui, il est en lien avec sa mère, parce qu'effectivement, c'est la seule personne avec laquelle il a encore des contacts. Mais il n'est pas en lien avec sa famille. » Et la question donc, qui a suivi de l'officier de protection qui indiquait donc, est-ce que vous êtes en lien avec votre famille et à laquelle il avait répondu oui, donc il a dit donc vous n'êtes pas en conflit avec votre famille. Et là, le traducteur a dit donc vous êtes en conflit avec votre famille. Donc il y a eu un quiproquo et lui, il a répondu à côté de la plaque et donc il y a eu une incompréhension totale en fait sur...
Donc en plus de textes difficiles et de magistrats noyés, vous vous heurtez même à cette barrière de la langue. Je ne sais pas vous, Claudine, dans la permanence du secours, si c'est un problème récurrent également.
Oui, nous avons parfois des étrangers qui sont plutôt anglophones pour certains, et d'autres, heureusement, parmi les collègues, il y en a qui pratiquent assez bien l'anglais, et puis d'autres, alors ça c'est plus embêtant, qui sont carrément analphabètes. Et là, vraiment, il faut user de beaucoup de patience pour essayer de déterminer quelle est la situation réelle de l'étranger, pour qu'il réponde correctement à nos questions, parce qu'on fait un questionnaire type pour voir un petit peu où en est l'étranger dans sa demande de régularisation. Et lorsque la personne n'a aucune instruction, c'est encore plus difficile que la barrière de la langue.
Et d'ailleurs, on entend régularisation, asile. Est-ce qu'on pourrait repréciser les quelques notions fondamentales sans faire un cours de droit pour les auditeurs, pour distinguer les différents modes de...
Très simplement,
de séjour en France.
Très simplement, exactement. Donc, ce sont les modes de séjour qui sont donc quand même régis par un code qu'on synthétise, le CESEDA, qui est, donc j'ai plus le
code de l'entrée,
le code de l'entrée du séjour, du droit de séjour des étrangers, du droit d'asile. Et donc, effectivement, les personnes qui rentrent sur le territoire, normalement, sont censées avoir un titre de séjour. Ça, globalement, les grandes catégories, c'est vie privée familiale, le travail, éventuellement les soins. Mais voilà, c'est quand même assez limité. Et il existe des admissions un petit peu plus exceptionnelles, comme notamment le droit d'asile, puisque le droit d'asile, c'est régi donc, par la Convention de Genève de 1951 sur, justement, la protection des personnes qui ont des craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces craintes doivent être fondées sur cinq fondements. Ça peut être politique, ça peut être sur... si elles appartiennent, par exemple, à un groupe social défini, donc notamment, c'est ce qu'on va utiliser pour obtenir une protection pour les personnes victimes de traite des êtres humains. Voilà, il y a cinq critères. Et donc, ça, c'est un droit un petit peu spécifique. On ne va pas en préfecture pour demander ce titre d'asile. On va devant l'OFPRA, qui est donc l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Et c'est un droit donc assez dérogatoire, puisqu'il y a cette première étape où on va voir un agent, donc un officier de protection, le fameux, qui donc étudie la demande, mais on est face quand même à une administration, l'avocat n'est absolument pas obligatoire, et la personne peut se retrouver face à des difficultés de traduction. Il y a clairement des a priori sur ces personnes, et donc ça se solde souvent par un refus. Ensuite, il y a un recours qui est possible devant la Cour nationale du droit d'asile, et c'est tout. Et devant la Cour nationale du droit d'asile, si vous n'avez pas de preuves, ça va être vraiment sur... ça va être une appréciation alors souveraine, oui, mais clairement arbitraire, sur la réalité de votre discours. Et donc, vous avez un panel de juges. Alors, vous avez un magistrat professionnel, un assesseur désigné par le Conseil d'État et un autre désigné par le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Mais finalement, c'est quand même assez surprenant de se rendre compte que certaines formations de jugement, je le dis, ne sont pas compétentes. Et en fait, ces personnes vont apprécier la solidité et la cohérence du discours du demandeur d'asile. Sauf que souvent, on est face à des personnes qui ont subi des traumas tels que... Revenir sur certains moments, c'est compliqué. Il y a le trauma, en fait, qui a fait que la personne a oublié les choses. Il y a aussi des mécanismes de survie qui font que la personne se dissocie elle-même, en fait, de ce qu'elle a vécu. Et donc, forcément, on a l'impression qu'elle en parle de manière complètement détachée. Mais en réalité, c'est parce que, justement, elle l'a vécu.
Pas une bonne victime, comme dans d'autres...
Exactement. C'est un sujet qui peut se retrouver un peu partout. Donc, voilà. Donc, l'asile, c'est quelque chose de particulier où, vraiment, la personne est vraiment livrée à elle-même après avoir vécu des choses assez... terrible.
Et d'ailleurs, sur ce manque de considération, vous me parliez d'un cas très emblématique, d'un professeur de mathématiques très diplômé qui se voyait reprocher de ne pas faire assez d'efforts.
Alors là, on n'est plus dans l'asile. Là, on est sur le droit au séjour un peu plus classique. Et là, c'était une personne qui était venue en France pour faire des études. Donc, c'est une personne qui avait un très bon niveau en mathématiques déjà dans son pays d'origine. Il est arrivé en France parce que justement il était très bon et qu'il avait été pris dans une école prestigieuse de mathématiques en France pour pouvoir poursuivre ses études. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que justement on en revient aux lourdeurs administratives. Il a eu son visa un peu au dernier moment pour pouvoir venir en France faire ses études. Donc il avait perdu 10 jours de cours à son école, ce qui lui a fait prendre du retard. Sauf que le niveau était tellement important que même lui, qui était excellent, il avait besoin de ces 10 jours, en fait, c'était compliqué. Et puis, en même temps de devoir gérer la complexité des cours, il y avait devoir s'installer en France. Sauf que tant qu'il n'avait pas les visas, il ne pouvait rien faire. Donc, il y a eu cette difficulté-là. Ensuite, comme il était étudiant, il ne pouvait pas travailler. Donc, il a dû faire une demande d'autorisation de travail, qui a mis plus de 6 mois à arriver. Donc, pendant ce temps-là, il accumule les difficultés. In fine, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à tout gérer et il sort un petit peu de ce système scolaire. Pourtant, il est soutenu par son école. Hein. Il est soutenu par l'administration parce qu'il est bon, il est soutenu par ses profs parce qu'il est compétent. Mais il sort du système. Et comme il sort du système, il perd son droit au séjour.
Et comme il perd son droit au séjour, il est en situation irrégulière. Donc il veut pouvoir se réinsérer, sachant qu'entre-temps, donc, il avait travaillé. Donc comme il avait obtenu son autorisation de travail, il travaillait. Comme il avait compris que ça n'allait pas le faire au niveau des études, il s'est organisé. Il demande un titre de séjour pour le travail, sauf que finalement, il n'était pas éligible, puisque ça ne faisait pas suffisamment longtemps qu'il était en France, qu'il était sorti du circuit et qu'on ne peut pas rentrer dans le système en dehors de ces critères-là. Et donc aujourd'hui, cette personne n'est toujours pas régularisée, alors qu'elle a été, on lui a offert quand même 5 emplois de prof de maths dans différentes académies françaises, dont on sait qu'il y a une carence aujourd'hui, et donc on est dans une situation parfaitement
ubuesque. Oui, la carence des profs de maths, ils ne volent le travail de personne.
Ils volent le travail de personne, effectivement.
Claudine, une réflexion là-dessus, ou vous pouvez peut-être nous parler des dossiers que vous avez à porter, puisque c'était un mot que vous aviez...
Oui, je pense qu'effectivement, une des grosses difficultés actuellement, c'est quand on sort des clous, quand il y a un retard à l'allumage, comme je dirais, et que la personne, finalement, elle devient hors-circuit malgré elle. Alors, il y a eu l'épisode épouvantable du Covid qui a aggravé les choses, parce que les gens, du coup, se sont retrouvés face à une administration qui était close, enfin, les portes étaient fermées. Donc, même s'il y a eu une directive comme quoi le récépissé pouvait être considéré comme valable encore quelques temps, ou la carte de séjour pouvait être prolongée artificiellement, les gens redoutaient l'interpellation dans la rue, tout simplement, et redoutaient la reconduite frontière parce qu'ils n'arrivaient plus à obtenir leur titre de séjour. Donc il y a des moments chaotiques. Alors j'ai cité le Covid, mais il y a des préfectures qui sont en déshérence totale au niveau des effectifs. Le retard, il peut devenir très rapidement, en matière d'étrangers, exponentiel. Les dossiers s'accumulent, on ne sait plus par quel bout les prendre. Et là, par exemple, j'ai appris tout à fait récemment que fin 2021, le retard était tellement considérable au niveau de l'enregistrement des dossiers à la préfecture de police qu'ils ont choisi de faire un classement, je dirais pas vertical, mais horizontal. C'est-à-dire qu'on place tous les dossiers par ordre chronologique et on ne les traite pas. Et on repart début 2022 sur une base nouvelle. Les enregistrements nouveaux sont traités et les anciens sont classés. Ce qui fait qu'on a des grands silences. Quand on s'inquiète de savoir ce qui est devenu la demande de tel ou tel, on nous dit en cours, le dossier est en cours. Et toujours pas traité. Et puis on finit par apprendre qu'il a été classé et que c'est un refus implicite, le rejet implicite de la demande, mais sans motif, puisqu'il n'a pas été traité. Il n'y a pas eu de décision, d'acte qui a été pris pour confirmer cela. Donc c'est à nous, associations, accompagnants, etc., de monter au créneau pour dire on veut savoir pourquoi la demande a été rejetée. Et on demande à rouvrir les délais, puisque c'est 4 mois de délai pour avoir une réponse, plus les 2 mois de contentieux. Et on veut absolument rouvrir les délais. Et ça, c'est un déni de droit absolu. Voilà mon témoignage.
Il y avait eu un durcissement sous Hollande, et je crois qu'on en avait discuté hors antenne, Maëlla, sur cette exigence de la régularisation, de devoir avoir des titres de séjour quasiment tous les ans. Sachant que vous êtes quasiment tout le temps en dialogue avec la préfecture pour solliciter un bout de papier qui va vous autoriser
à... C'est ça, alors c'est pas...
sacro-saint récépissé.
C'est ça, alors avec la réforme qui avait lieu sous le mandat de Hollande en 2016, ça a plutôt renforcé la question de la maîtrise de la langue, qui est très discriminatoire parce qu'en fait, il y a des personnes qui parlent très bien le français, mais qui ne le maîtrisent pas à l'écrit. Et pourtant, elles travaillent, elles vivent en France, elles comprennent très bien, mais voilà, l'écrit, c'est une barrière. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sont là depuis 30 ans, mais qui ne peuvent pas obtenir un titre de séjour plus long que d'un an, compte tenu de cette barrière de la langue. Et donc, la question du titre de séjour d'un an, en fait, c'est ça. C'est qu'en 84, d'abord, on avait un titre de séjour de 10 ans, qui était un petit peu la norme. Et c'est à partir des années... Alors, je n'ai plus la date exacte. Je crois que c'est année 2000, quand même, où on a commencé à réduire la durée du titre et qui est devenu d'un an. Et en fait, à chaque fois, c'était un an. Et maintenant, on peut avoir... Donc, si on prouve qu'on a intégré la République française... Pour ça, il y a des stages que vous devez faire. Mais pour pouvoir les faire, il faut que l'OFI vous convoque. Donc, si l'OFI ne vous convoque pas, vous n'êtes pas dans le circuit. Et donc, vous devez à chaque fois, tous les ans, faire une nouvelle demande de titre. Et sachant que, en fait, votre titre, vous faites la demande. Deux mois avant l'expiration de votre titre, vous devez faire une demande de renouvellement. Et en fait, vous êtes en constante procédure parce que c'est pas vous faites une demande de titre et vous l'avez dans le mois. C'est vous faites une demande de titre. Si vous avez de la chance, vous l'avez dans les 6 mois. Et donc, vous l'avez pour, qui démarre à partir de la date où vous l'avez demandé. Et en fait, du coup, vous êtes en permanence en préfecture.
Et sans être juriste pour les auditeurs, il y a la loi et il y a l'esprit, sans faire de grandes théories. Et comment on justifie ça philosophiquement, budgétairement, rationnellement, qu'il faille surcharger une préfecture pour légitimer tous les ans sa situation ? Claudine, d'abord, peut-être, qui avait œuvré en préfecture. Comment on justifie ces exigences de...
Alors, la justification à l'époque où j'avais commencé ce travail en préfecture, c'est plus facile de mettre fin à un titre précaire qu'à un titre de résident. Donc, le titre de résident, c'est le Graal. Une fois que vous l'avez... Très difficile de le retirer. Il faut vraiment avoir commis des forfaits épouvantables en France pour qu'on vous retire votre titre de 10 ans. Tandis que la carte de 1 an, c'est très facile d'y mettre fin. On ne la renouvelle pas et puis c'est tout. Donc c'est vrai que ça engendrait un flot continu de demandeurs qui chaque année nous disaient « s'il vous plaît, accordez-moi un titre pérenne et d'ailleurs vis-à-vis des banques, vis-à-vis de mon travail, vis-à-vis d'un emprunt pour acheter un logement, je n'arrive pas à obtenir ça parce que mon titre n'est qu'un titre renouvelable. » Alors que le titre de 10 ans, on pouvait penser qu'il était beaucoup plus pérenne. Donc on avait ce souci-là. Alors je crois que la loi a évolué pour en mettant des titres pluriannuels, mais c'est pas beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Donc on continue à avoir un flot ininterrompu d'étrangers qui ont mis le pied à l'étrier et qui peuvent arguer de leurs bonnes ressources et de leur intégration dans la société française et qui n'ont toujours pas ce titre de 10 ans.
Qu'une sorte de flexibilité un peu cynique finalement. L'État garderait une main mise pour pouvoir disposer des personnes... beaucoup plus aisément avec des titres tout à fait précaires.
Très simplement, c'est très politique et c'est une volonté d'empêcher en fait l'immigration. C'est dans une logique de lutte contre l'immigration irrégulière que ces lois en fait tout simplement restrictives de droits sont entrées en vigueur. Et si effectivement vous expliquiez très bien que le titre de 10 ans est protecteur parce que justement j'en reviens à mon droit international et mes droits de l'homme, quand on reste de manière pérenne sur un territoire, on crée des liens, notamment des liens familiaux. Et en fait, en règle générale, on essaye quand même, dans notre monde, de protéger certains droits qu'on estime fondamentaux, notamment le lien de la famille. Sauf que c'est vrai que si la personne ne peut pas rester de manière pérenne, elle ne peut pas créer de famille. Et donc, du coup, on peut facilement la rejeter. Donc, c'est simplement dans une logique politique d'exclusion, en fait. C'est très classique. On l'a connu dans les années 30. Pourquoi s'arrêter aujourd'hui ? C'est simplement un discours qui est mis en place dans ces lois-là. Il n'y a aucune rationalité économique à empêcher ces personnes de rester.
Très bien, Claudine, une dernière réflexion avant la pause que j'espère musicale.
Écoutez, moi j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à cette problématique. Je trouve que on va dans le mur. Enfin, c'est absolument ridicule d'imaginer que parce que nos lois sont difficiles pour que les étrangers obtiennent des titres, on ne peut pas imaginer que ça sera suffisamment dissuasif pour qu'ils traversent la Méditerranée et viennent chez nous. C'est pas ça que l'étranger regarde. Quand il fuit son pays, pour des raisons pas seulement politiques, mais économiques, ou de changement climatique, tout simplement, il va pas imaginer qu'en France, la loi est complexe, je vais devoir faire la queue au guichet, ou du moins attendre éternellement avant d'avoir un titre. Il franchit la barrière, il traverse la Méditerranée s'il le faut, ou plusieurs pays. Certains me racontent d'ailleurs que leur migration a duré 5 ans avant d'atteindre la France. Donc c'est pas en un jour qu'on arrive en France, et on est tellement motivé qu'on va pas réfléchir à la difficulté d'obtenir un titre de séjour. On tente sa chance. Et comme je dis toujours, chacun a droit à un morceau de soleil sur cette planète.
Voilà. Et je répète que vous avez travaillé en préfecture et que vous êtes bénévole au Secours catholique.
Voilà, je suis de l'autre côté de la barrière.
C'est important de le rappeler.
Non, c'est ça, si vous voulez, c'est pour être clair, les personnes exilées ne sont pas sur notre territoire par choix. Faut arrêter de penser que tout est un choix permanent. La majorité des personnes qui se retrouvent en France, que ce soit en situation irrégulière ou même pour un travail, c'est parce qu'il n'y en avait pas ailleurs quand on quitte
absolument,
son pays. C'est pas un choix.
C'est pas un choix. Et ça, c'est très bien expliqué dans le rapport auquel je faisais référence, le rapport parlementaire. On ne réfléchit pas quand on part. On n'imagine pas les difficultés, mais elles sont toujours moindres que celles du pays d'origine.
Exactement. Voilà. Donc on aura beau essayer d'empêcher et de rendre la vie impossible à ces personnes, à part se comporter de manière parfaitement inhumaine, on n'arrivera à rien d'autre.
La tête dans le sable, donc. Alors, on se retrouve dans un instant pour évoquer le cœur de votre travail au quotidien. Mais avant cela, si la console de mixage nous laisse le passer, j'aimerais vous partager un groupe tout à fait spécial, le Golden Gate Quartet, né pendant la ségrégation, avec Invisible Hands.
Invisible Hands. Are waiting to guide you. Invisible hands will show you the way. Faith in the Lord, He's always beside you, so from invisible hands, 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 invisible hands. You just pray and believe, and help you receive. Lord, help you receive from invisible hands. Yes. Invisible hand, invisible hand, oh, will keep you from danger, will keep you from danger. Invisible hand, invisible hand, will keep you from harm, will keep from harm. You may have seen but when the stranger, you just pray and believe and help you receive. Lord, help you receive from invisible.
Et c'est toujours le chiffon qui radote et j'ai les poils qui se hérissent en écoutant cet hymne magnifique. Bon, à la tolérance en tout cas, à garder la foi. Et c'est le chiffon donc qui ne radote finalement pas tant que ça, l'émission du journal de Paris et sa banlieue. Les abonnements sont disponibles sur le site lechiffon.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Maëla, une avocate militante, et Claudine, ancienne de la préfecture et bénévole au Secours catholique, pour un tour d'horizon de la politique migratoire en France. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet maintenant que nous avons réussi à avoir une pause musicale. Claudine, pouvez-vous nous présenter de manière concrète la permanence dans laquelle vous travaillez et le profil de vos collègues bénévoles que j'ai pu d'ailleurs rencontrer?
Alors,
dont j'atteste du dévouement, pardon.
La délégation du Secours catholique de Paris comprend cinq permanences, cinq caritas, avec des jours de réception différents. Et moi, je m'occupe de la caritas Centre-Est à Saint-Ambroise. Et chaque jeudi après-midi, nous sommes en principe quatre bénévoles à recevoir sur rendez-vous les personnes qui sont en difficulté et qui ne parviennent pas à obtenir de papier. Voilà, donc c'est souvent, très souvent des Africains. Nous avons aussi donc Afrique du Nord, Afrique noire, subsaharienne, et puis des nationalités diverses. Ça peut être le Moyen-Orient.
Dans un premier temps, votre accompagnement est plus psychologique, essayer de comprendre, de démêler, de soutenir la personne, ou est-ce qu'on rentre directement dans le vif des preuves de présence?
Alors, en général, la personne, elle a déjà fait un point avec une équipe généraliste. Et l'équipe généraliste a pointé du doigt le fait que sa précarité vient de son défaut de carte de séjour. Donc, elle nous est adressée et on sait pourquoi elle est là. Il faut absolument faire le point de sa situation depuis son arrivée en France et ce à quoi elle pourrait prétendre. Alors, les cas que j'allais dire, que jusqu'à présent j'estimais plus simples, mais c'est pas toujours vrai, c'est les personnes qui sont parents d'enfants nés en France, scolarisés en France, et les personnes qui travaillent malgré tout sans papier. Alors ces cas-là, qui répondent à la circulaire Valls du 28 novembre 2012, j'ai envie de dire, on peut faire quelque chose. Ou alors le mineur qui est arrivé après l'âge de 13 ans ou de 16 ans, et qui poursuit des études, qui arrive à la majorité, qui a besoin d'un titre de séjour, on va pouvoir faire quelque chose pour ce mineur devenu majeur. Ou pour cette mère isolée qui a des enfants scolarisés depuis au moins 3 ans. Alors par contre, les cas qui nous posent problème, ce sont des arrivées récentes. Alors la personne, elle est là depuis quelques mois seulement, parfois à la rue, non logée, avec une assistante sociale dans le meilleur des cas. Elle arrive à manger au resto du cœur et c'est une personne célibataire, parfois jeune, qui a suivi un cheminement parfois de plusieurs années pour venir en France et qui espère pouvoir travailler, s'insérer, mais on lui dit écoutez, là ça va être difficile parce que vous n'avez même pas un an, même pas 5 ans de résidence en France, vous n'êtes pas en mesure de nous produire un quelconque contrat de travail. Vraiment, c'est difficile pour nous. Et l'autre cas, enfin, un des autres cas qui nous pose problème, c'est la personne qui a déjà tenté sa chance, qui a déjà eu un refus de séjour assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français. Et là, on est totalement démunis, parce qu'on sait très bien que tant qu'elle n'aura pas retraversé la frontière, qu'elle n'aura pas exécuté l'interdiction de retour, on ne pourra pas forcer, en quelque sorte, les guichets de la préfecture. Et donc, moi, j'ai un discours de vérité, et mes collègues aussi. On préfère dire à la personne, écoutez, vous êtes là, le Secours catholique est prêt à vous aider au maximum, notamment pour vous trouver un hébergement, ou pour vous orienter sur une assistante sociale, pour vous donner un petit peu d'argent pour payer votre passe Navigo, ou des choses comme ça. Mais nous, au niveau des papiers, on ne pourra rien faire. Donc, quelquefois, je leur dis, écoutez, c'est tellement difficile, vous allez devoir attendre tellement d'années dans la clandestinité avant d'imaginer une quelconque régularisation. Réfléchissez bien, est-ce que ça ne vaut pas le coup de repartir chez vous ? Parce que vous avez parfois des étrangers qui ont laissé femmes et enfants dans leur pays d'origine, et qui languissent d'ailleurs de les voir. Alors je dis, est-ce que c'est pas mieux, malgré tout, de repartir, plutôt que de vous sédentariser dans une clandestinité qui est extrêmement nocive pour la personne, et qui, ce qui va probablement déboucher sur une reconduite à la frontière. Donc, dans certains cas, je préfère avoir ce discours-là plutôt que de leur promettre monts et merveilles et de les accompagner jusqu'au guichet.
Maëla, est-ce que vous êtes soumise à...
Oui, alors c'est assez similaire dans le sens où effectivement quand des personnes exilées viennent voir un avocat, c'est en règle générale c'est pour une régularisation, c'est-à-dire que ce sont souvent quand même des personnes en situation irrégulière. Il y a quand même des personnes qui sollicitent un conseil pour le maintien de leur titre de séjour et donc pour qu'on les accompagne sur le renouvellement. Donc là on est effectivement dans une situation très confortable où voilà, c'est assez simple. C'est lourd en termes administratifs, mais ça, je crois que c'est les joies françaises applicables à tout individu sur ce territoire. Donc, c'est vrai que la difficulté, c'est celle-ci. C'est quand on est face à quelqu'un qui est en situation irrégulière, ne rentre pas dans les cases de la fameuse circulaire Valls, et même quand elle rentre dedans, c'est très compliqué puisqu'on est justement sur une matière, on l'a déjà dit, arbitraire, puisque tout est à l'appréciation discrétionnaire, donc c'est pas mi-arbitraire, mais bon, c'est l'appréciation discrétionnaire du préfet. Donc c'est vrai qu'on a une marge de manœuvre qui est très faible, et quand je vous entends dire justement que vous envisagez à cette personne la possibilité de retourner chez elle, je suis curieuse de savoir la réponse que vous avez, parce que moi, en tout cas, les personnes que j'ai pu avoir sont déterminées, c'est-à-dire elles sont là, moi j'ai déjà tout perdu, j'ai déjà tout donné pour arriver ici, si je repars comme je suis déjà restée de manière sur le territoire de manière irrégulière, j'aurai jamais de titre, donc en fait ma vie, elle est bloquée. Donc, si je reste, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir rester suffisamment longtemps pour pouvoir être en situation régulière et avoir une vie meilleure. Et en fait, c'est cette espèce de course vers l'espoir permanent qui est une chimère.
Une utopie.
Complètement, parce qu'on est dans un système qui n'est pas du tout humaniste. Et donc, en fait, ces personnes ne l'entendent pas et veulent... En tout cas, moi, je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit... Très bien, je rentre, mais moi, je ne l'ai jamais vu.
Dans le meilleur des cas, j'ai eu la réponse suivante, je vais réfléchir.
C'est ça.
Mais je ne me fais pas d'illusions, effectivement.
Et si on travaille sans être déclaré, comment prouve-t-on ces années de travail
Oui, alors ça, c'est encore la magie de la magie de la fameuse circulaire Valls. Donc voilà, il est interdit de travailler en France si on n'a pas de papier. C'est une infraction pénale, pour les employeurs. Alors si je ne m'abuse, le projet de loi envisage de même réprimer la situation pour les demandeurs d'asile, les exilés eux-mêmes.
bon, écoutez, dans ce cas-là, on va vous empêcher, on va vous condamner pour travailler de manière irrégulière, mais si vous travaillez de manière irrégulière suffisamment longtemps, on pourra envisager de vous régulariser. C'est parfaitement absurde.
Absurde.
C'est vraiment, on marche sur la tête. Et donc, voilà, donc, comment prouver ? Eh bien, écoutez, il faut faire des fausses cartes. Je ne l'encourage pas.
Travailler sous alias.
Ou un faux nom, exactement.
Voilà. Mais la fausse carte vous rend licenciable du jour au lendemain sans aucune procédure, ni préavis, ni indemnité.
Et poursuivable également pour faux, usage de faux, pour tromper l'administration. C'est un cocktail sublime que je ne recommande à personne. Mais effectivement, il n'y a pas d'autre choix. Donc aujourd'hui, les personnes qui travaillent en situation irrégulière sont obligées de mentir, ce qui est très dur pour elles, hein, parce que c'est en fait la majorité des êtres humains sont quand même normalement constitués et n'apprécie pas de mentir. Et pourtant, bah, elles y sont contraintes. Et non seulement elles mentent, mais en plus, elles s'exposent à des poursuites.
Alors, le cas le plus fréquent que j'ai rencontré, c'est de travailler sous alias. C'est-à-dire, j'emprunte la carte d'un compatriote, mais je lui reverse une grande partie de mon salaire. Et lorsque j'arrive au terme des 5 ans et que j'espère une régularisation, il faut que l'employeur fasse une attestation de concordance. La personne qui est identifiée sur la carte n'étant pas la même que son employé, il doit faire cette attestation. Et alors, là, c'est la panique totale, parce que pour certains étrangers, aller demander à l'employeur de dire ah « bah, finalement, c'était pas vous, c'était un autre », certains employeurs s'y refusent, et donc c'est un vrai souci. Mais malgré tout, on peut y arriver de cette manière-là, en travaillant sous alias. Mais c'est un...
C'est terrible,
c'est ridicule. C'est un ridicule. Texte flou ou cynique, il n'y a qu'une sorte de bricolage, une zone grise qui est encouragée.
Et alors, ce qui marche très bien aussi, et qui marchait à l'époque où j'exerçais encore, c'est les cartes étrangères. C'est-à-dire, je deviens, par l'opération du Saint-Esprit, en monnayant quelque chose à la goutte d'or, je suppose, belge, avec une jolie petite carte d'identité belge. Oui. Et donc, j'ai le droit au travail, je me maintiens artificiellement en France. Puis, un jour, quand même, ça commence à poser problème. Et donc, je demande une régularisation sous ma véritable nationalité.
C'est ça.
Et ça, c'est du bricolage.
Oui,
c'est de la fraude.
Et c'est vrai que ces personnes, donc en plus, ce qui est terrible, c'est que donc elles ont cette option de pouvoir demander éventuellement la grâce du préfet pour être régularisées, mais c'est après ou 3 ans de présence en France, mais principalement c'est 5 ans. 3 ans, c'est à titre exceptionnel. Oui. C'est long. C'est long, 3 ans. Je ne sais pas si les personnes peuvent essayer de se rappeler ce qu'ils ont fait pendant les 3 dernières années, mais quand pendant 3 ans, vous êtes en situation irrégulière, vous espérez peut-être pouvoir obtenir une régularisation, vous vivez dans des conditions quand même qui sont catastrophiques. Et ça, on ne s'en rend pas compte. On se dit, ah oui, il y a des voies de régularisation qui existent. Oui, bah merci. Dans quel contexte aussi ça se fait ?
Donc finalement, vous adressez à des personnes qui vivent des drames, et c'est un travail qui est très difficile à faire pour vous.
C'est ça. Et il y a aussi la question de l'accès au droit. Très brièvement, je ne sais pas si on a le temps. J'ai par exemple un cas assez récent d'une personne qui a fui son pays compte tenu d'un mariage forcé. Elle s'est retrouvée en France, donc ça va faire bientôt 4 ans qu'elle est là. Dans le cadre de ce mariage forcé, forcément, il y a eu des violences sexuelles, vous vous en doutez, et donc il y a eu un enfant. Donc elle est arrivée en France par bateau, elle s'est retrouvée à la rue, et elle a finalement accouché, et dans ce cadre-là, elle a pu être un peu plus prise en charge, mais quand même, elle a été à la rue pendant plusieurs mois. Et elle n'a pas été informée sur ses droits, elle ne savait pas que, a priori, c'est pas impossible, je ne suis pas en train de dire non plus qu'elle va avoir une protection de manière certaine, mais c'est possible d'envisager une protection au titre de l'asile, justement, parce que cette personne fait partie d'un groupe social déterminé qui subit des pressions dans son pays d'origine, compte tenu de ce risque de mariage forcé, donc qu'elle a déjà subi, qu'elle a réussi à s'enfuir. Mais voilà, donc ça va être à l'appréciation de l'OFPRA, éventuellement de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, si jamais on ne l'a pas du premier coup.
Mais cette personne n'avait jamais été informée de ça, donc elle s'est maintenue sur le territoire sans connaître ce droit. Ce qu'on lui avait dit, c'était que si elle avait été violentée en France, elle aurait pu avoir un titre de séjour de protection, mais finalement, on lui a pas dit qu'elle pouvait avoir l'asile. Donc elle s'est maintenue, là maintenant elle travaille, ça va faire 4 ans, donc on va essayer de faire cette demande, mais ça fait pas 2 ans qu'elle travaille. Désolée, c'est un peu technique, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ces personnes n'ont pas accès à la bonne information. Et donc aujourd'hui, ça va être très compliqué pour elles d'avoir l'asile parce qu'elles le demandent plus tardivement. Et donc elle va faire partie d'une procédure dite accélérée. Et ça, c'est une question d'accès au droit. Et ça, c'est un autre problème.
Une législation floue, un bricolage, des situations intenables. Vous l'aurez compris, ce matin, on parle de fraternité, mais la situation est loin d'être brillante. Nous parlerons en dernière partie de cette émission des débats actuels sur la loi, la réforme du système de législation sur les étrangers. Avant ça, la prochaine partie sera sur les discours un petit peu fumeux que nous entendons de toutes parts en ce moment. Tout de suite, avant ça, un trio formé par une Américaine, un Iranien et un Algérien, parce que j'y tiens beaucoup, le métissage peut fonctionner, avec une musique totalement inclassable, dont je recommande l'écoute de tout l'album. Nous écoutons à l'instant Ekova Todosim. Et c'est toujours le chiffon qui radote l'émission du journal trimestriel d'enquête et de reportage de Paris et sa banlieue. Vous pouvez vous abonner sur le site lechiffon.fr. Toutes mes excuses, nous avons dû fondre la fin de ce morceau épique, car nous sommes pressés par le temps. Et le chiffon radote, mais il ne radote pas tant que ça. Il faudra vraiment changer le titre de cette émission. Avec nous ce matin, nous avons deux femmes de loi. L'une bénévole au Secours catholique après une vie en préfecture, je le répète pour nos auditeurs qui se lèveraient que maintenant. et l'autre, avocate engagée dont on a senti la cause chevillée au corps dans la partie précédente. Vous qui œuvrez dans un domaine aussi sensible que l'asile, la régularisation et les étrangers en général, j'aimerais vous interroger sur la manière dont vous percevez et vivez des discours parfois largement, j'allais dire, noyés par l'émotion plutôt que la rationalité. Pour introduire le propos, très rapidement, j'aurais aimé vous citer le rapport de l'OCDE de 2021 qui analyse les statistiques de 22 pays européens, augmenté de l'Australie, du Canada et des États-Unis, et ce sur 13 ans, et on ne parle pas d'une petite officine gauchiste, je le répète aux auditeurs. Et la conclusion est sans appel, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts, de cotisations est supérieure aux dépenses que les pays consacrent à leur protection sociale. La contribution des immigrés est suffisamment importante pour couvrir entièrement leur part des dépenses publiques consacrées à la santé, à l'éducation et même au régalien. Donc je dois couper ici ce rapport dont je vous invite vraiment à la lecture afin de tenir la dragée haute à tous les discours que nous entendons actuellement. Pourtant, on se souvient bien, dans la cohorte des polémiques gratuites, de l'emblématique scandale de l'hôtel de luxe qui aurait logé les passagers de l'Ocean Viking, un bateau agien. Une rumeur qui a été totalement démentie par la suite, qui avait été montée en épingle par l'extrême droite. Donc demeure tenace cette idée que les migrants vont profiter de notre Eldorado, qu'ils voudraient prélever nos ressources. Ma première question à toutes les deux, comment expliquez-vous cette surdité d'une partie importante du spectre politique? Ma question est faussement naïve. Est-ce que c'est une crainte sincère? Est-ce que c'est un cynisme? Mauvaise foi? Un cocktail subtil de tous ces éléments?
Une grande ignorance dans la population française. Une très grande ignorance dans la population française. Et ça, c'est pas quelque chose de vraiment nouveau, mais ça a été tellement instrumentalisé par l'extrême droite, comme vous l'avez dit, qu'on a du mal à en sortir. Et ce qui est amusant, c'est que c'est la fraction de la population qui souffre le moins de la proximité avec des migrants qui s'indigne le plus ou qui s'inquiète le plus. Ça m'a toujours frappé. J'ai voyagé un petit peu en France. Bon, je suis moi-même provinciale, mais c'est vrai que en Île-de-France, il y a énormément d'étrangers. Dans les banlieues, il y a parfois une promiscuité, des rapports difficiles entre les différentes communautés. Mais ce n'est pas forcément ces gens-là qui se plaignent le plus. Et quand on va dans des régions comme l'Auvergne, la Bretagne, on entend parfois des discours qui sont troublants. Oui, ces étrangers, nous sommes envahis, ils viennent ôter le pain de la bouche des Français. En réalité, ces régions-là ne sont pas du tout envahies, on n'en voit pas dans les rues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on aurait plus intérêt à régulariser des gens qui travaillent déjà et qui pourraient payer des cotisations à l'heure où on parle de la réforme des retraites qui déplace beaucoup de foule et d'indignation. Il serait de notre intérêt collectif bien compris de régulariser ces personnes qui, à leur tour, pourraient cotiser. Le travail clandestin, c'est une perte de revenus pour la France. C'est une mauvaise condition de travail pour les étrangers eux-mêmes, évidemment, mais pour la France elle-même, c'est un très mauvais pari que de ne pas vouloir régulariser des gens qui travaillent dans la plus grande clandestinité.
Oui, là-dessus, justement, alors, deux choses, juste une petite précision, je pense que c'est ce que vous vouliez dire aussi, mais il y a les personnes qui travaillent de manière non déclarée, donc qui n'ont même pas de faux noms ni de fiches de paie, où là, on est vraiment sur du travail noir classique avec du paiement liquide, où là, effectivement, ça échappe aux cotisations sociales, mais quand même, il faut quand même rappeler aussi que les personnes qui travaillent aujourd'hui en France et qui peuvent justement prétendre à une régularisation aujourd'hui, souvent ont des fiches de paie, donc cotisent, finalement. Mais c'est ça, c'est effectivement, il y a le fait que ces personnes ont vocation à être régularisée si elle travaille déjà. Mmh. Et moi, j'irais même plus loin en disant que, en fait, toute la lutte contre l'immigration irrégulière coûte beaucoup plus cher que si on pouvait donner un statut légal à ces personnes pour qu'elles restent. Parce que la majorité de ces personnes, en fait, elles veulent rester pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre,
absolument.
Et absolument pas pour pouvoir s'asseoir. Alors, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait bénéficier d'un transat au RSA, mais bon. Admettons que les personnes soient là pour uniquement avoir les allocations sociales. On ne vit pas décemment aujourd'hui avec des allocations sociales. Ces personnes sont là pour travailler et donc nécessairement c'est important qu'elles puissent le faire.
Et un point important qui va peut-être heurter les plus chauvins d'entre nous, j'aimerais vous citer encore une fois quelqu'un dont on ne peut douter de l'intégrité intellectuelle, François Héran, qui est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, qui évoque quel tragique de répétition quasiment pathétique des occurrences de tous ces discours, mais qui dénonçait notamment qu'au soutien d'une politique de fermeture totale des frontières se trouve une théorie totalement fumeuse de l'appel d'air. Accueillir peu ouvrirait grand les portes. On l'entend encore récemment, nous avons des militants pro-Zemmour qui prient contre le grand remplacement. Pourtant, la France n'attire pas autant qu'on peut se l'imaginer. En 2020, nous étions le 77e pays en part d'immigrants dans notre population. Et même pour les Ukrainiens, près de 30% avaient été accueillis par l'Allemagne et seulement 5% en France.
Et puis on n'est pas si accueillant que ça.
On n'est pas du tout accueillant et en plus, on n'a jamais eu de politique d'accueil réelle. Donc en fait, on ne sait pas. Ce ne sont que des supputations vraiment fumeuses, hein, je le dis. On n'a aucun retour historique sur le fait que si on ouvre la possibilité à ces personnes d'exister humainement, la Terre entière va venir. Parce qu'en fait, les statistiques sont assez claires. Alors, il faudrait que je retrouve le rapport exact, mais ça date de 2015 et c'est la Commission européenne. Donc, on est pareil, on n'est pas sur l'extrême gauche. Les personnes qui sont en exil et qui arrivent dans un pays dans l'Union européenne, elles le choisissent d'une certaine manière, surtout par rapport à la langue. Donc, effectivement, quand on parle français, c'est plus simple d'être en France. Mais les personnes qui ne parlent pas français n'ont aucun intérêt à venir en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent aux portes de l'Angleterre, parce que beaucoup de gens veulent aller en Angleterre parce qu'ils parlent anglais. C'est aussi donc la langue, donc la famille, le réseau. Donc, c'est ça aussi qui va motiver les personnes.
On rejoint une communauté.
Exactement, on rejoint une communauté. Et donc, on n'a aucun intérêt, là encore, à venir dans un pays, quand bien même on aurait une situation régulière. Si on n'a pas de réseau, si on est seul, ça ne fonctionne pas.
Et vous lancez mon prochain propos, nous fusionnerons les deux dernières parties de cette émission. J'aimerais vous citer enfin un rapport combiné de l'INSEE et de l'INED de l'année dernière qui évoque bien qu'un tiers de la population seulement a un lien avec l'immigration sur trois générations. Un tiers, ce n'est pas seulement.
Absolument.
Seuls 5% des Français ont leurs quatre grands-parents immigrés. Le reste n'est que brassage et M. Héran du Collège de France nous parle d'incorporation. François Héran, lui analyse les rhétoriques actuelles en disant que les opposants figeraient une situation actuelle où effectivement il y a encore des problèmes d'incorporation, parce que ça se fait sur le temps long. Pourtant, sur ce temps long, les communautés particulières sont toujours absorbées. J'en veux pour exemple les Polonais ou les Italiens en France. Aux États-Unis, ce fut le cas des Irlandais et des Polonais. Si vous lisiez tout ce qui se disait sur les Irlandais à l'époque. Voilà. En France, nombre d'hommes politiques viennent d'anciennes communautés. Et ils citent, avec une petite marque d'ironie, Nicolas Sarkozy, Jordan Bardella, Éric Ciotti, entre autres. Tous trois sont bienvenus d'ailleurs, et pourtant aujourd'hui, personne ne doute de leur appartenance à la population majoritaire. Donc, une réflexion là-dessus.
Oui, alors effectivement, c'est beaucoup de choses. pour revenir peut-être sur l'hôtel de luxe, qui est important, parce que cette question se place dans la notion de zone d'attente. Et pas plus tard qu'hier matin, j'ai suivi une formation avec l'ANAFE, qui est une association extraordinaire qui travaille justement avec les personnes qui sont placées dans ces zones d'attente, qui sont en fait des zones de non-droit. Et ces zones d'attente, il y en a des pérennes, mais il y en a des temporaires. Et ça, c'est la magie du droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système juridique qui autorise l'État à appréhender ces personnes.
et à les placer dans des fameuses zones d'attente temporaires, mais il n'y a pas vraiment de critères sur ce que doit être cette zone d'attente temporaire. Donc parfois on les met dans des gymnases, parfois on les met dans des cages à Mayotte. Et là, effectivement, il y avait eu peut-être un hôtel qui avait été affrété, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la zone d'attente, notamment à Nantes, c'est un hôtel où la personne est à sa chambre. Génial, quel luxe. Mais elle n'a pas accès à la salle de bain sans que le policier puisse la voir. Donc, en termes de respect des droits humains, d'intimité et de respect des droits de l'homme et de la dignité, on en est quand même très très loin. Et donc, c'est parfaitement absurde. Et le discours en fait de ces politiques ne vise que à attiser la haine, à maintenir la peur et à être élu, tout simplement.
Donc finalement, là, on voit qu'il y a deux volets dans cette réforme, un volet un peu plus à gauche, légèrement plus à gauche, et surtout le volet droit représenté par Monsieur Darmanin. Est-ce que vous pensez, au vu des débats, là, je sais que la loi va passer en examen le 27 mars au Sénat avant d'être renvoyée à l'Assemblée, est-ce qu'il y a finalement une manière de lutter contre ces argumentaires, ou est-ce que... À partir du moment où les arguments rationnels ne tiennent plus le coup.
Ben c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait la manière de lutter, c'est frustrant parce que rationnellement, ça ne tient pas. Rationnellement, ça n'est pas fondé sur les statistiques, vous en avez cité, nous en avons cité. Donc en fait, l'argument rationnel, il n'y en a pas. La seule réalité, c'est qu'il faut en parler.
Lisez ce rapport de l'OCDE, j'insiste pour nos auditeurs. Pour pouvoir alimenter les débats.
C'est ça, il faut en parler, il faut en parler autour de soi, il faut vraiment essayer de mobiliser la clairvoyance en fait des citoyens pour faire entendre le fait que la répression et l'exclusion toujours plus forte de ces personnes en fait ne fait que créer de la précarité et n'a aucune efficacité en fait sur cette fameuse lutte contre l'immigration irrégulière et ces fameuses vagues migratoires qui seraient terriblement dangereuses.
Moi, ce que j'ajouterais volontiers, c'est que les reconduites frontières sont extrêmement difficiles. L'année dernière, on était à environ 10% par rapport à toutes les mesures d'éloignement qui avaient été prises. Environ 10% de reconduite à la frontière, c'est tout à fait négligeable. Et ça, les gens ne le comprennent pas et ne le savent pas. Donc, manque de moyens, mais j'allais dire aussi manque de reconnaissance de la part des consulats des étrangers qui se trouvent sur le territoire français. Pas question de reconnaître, par exemple, quand la personne n'a plus de passeport, c'est très facile pour une autorité étrangère de dire je ne prends pas, je ne la réaccepte pas dans mon pays. Et donc ça fait partie des taux d'échec et je ne vois pas ce que la loi va pouvoir changer par rapport à ça. On peut être répressif autant qu'on veut, prendre beaucoup de mesures d'éloignement qui ne seront pas suivies des faits.
Mais qui seront bien en déclaratif.
Mais voilà, oui, mais
on a prononcé tant de reconduites.
Malgré tout, l'extrême droite souligne quand même cette incapacité de la France à reconduire à la frontière. Donc, est-ce que si d'aventure ils se retrouvent au pouvoir, est-ce que eux mettront davantage de moyens et pourront négocier avec les autorités étrangères des laissez-passer, des sauf-conduits pour la reconduite? Conduite, j'aimerais bien le savoir. Donc, c'est pas exécuté.
Eh bien, écoutez, nous sommes pris par le temps. Je vous remercie infiniment d'être venu. Est-ce que vous avez un mot conclusif, peut-être, ou un appel? Est-ce qu'il y a une future date de mobilisation? Bon, nous sommes très mobilisés avec la cause des retraites, mais passer.
La seule chose que je n'ai peut-être pas dite, c'est que la France n'est pas si accueillante que ça et n'est pas du tout menacée d'invasion. Alors que certains pays d'Afrique, notamment, qui sont voisins des conflits, accueillent énormément. Et pas seulement l'Afrique. Le Bangladesh accueille énormément de Rohingyas qui viennent de Birmanie, alors que c'est le pays le plus pauvre de la planète. Et donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose, c'est une vérité qu'on oublie de mentionner. Voilà.
Eh bien, on va se quitter sur ce point qu'on entend quasiment jamais dans les médias. Vous êtes sur Radio Libertaire, on en parle ici. C'était donc l'émission du Chiffon, le journal d'enquête de Paris et sa banlieue. Le Chiffon, c'est avant tout une équipe de bénévoles qui se réunissent pour s'apprendre, s'entraider et vous proposer un journal de qualité. Je peux vous dire que j'imaginais pas qu'on travaillait autant dans un trimestriel. Entrer dans l'équipe du Chiffon, c'est être accueilli, partager ce qu'on sait, surtout apprendre quantité de choses sur le monde d'aujourd'hui dans une ambiance chaleureuse. Tous les profils sont les bienvenus. bienvenue, de l'apprenti journaliste à l'artiste engagé, du juriste au retraité, de l'acteur de théâtre poète au membre de l'Office national des forêts, beaucoup de profils très divers pour peindre une autre Île-de-France. Trois générations dans les conférences de rédaction. Alors venez nous aider, un petit mail et c'est fait à le-chiffon@riseup.net. Pour s'abonner, c'est la même adresse. Pour le numéro 8, nous avons encore découvert 1000 choses sur ce qu'on vous présente comme les mobilités douces. Nous avons un dossier qui s'appelle « Réinventer la roue », que vous trouverez en vente dans plusieurs librairies parisiennes comme Le Monte en l'air, Le Genre urbain, L'Atelier, Le Maire, Le Moqueur, entre autres. Je n'ai pas le temps d'en dire plus. Une foule d'autres thématiques intéressant notre Île-de-France, comme les conditions d'accueil dans le SAMU social ou la boxe dans certains quartiers. C'était le chiffon qui radote avec Maëlla, avocate au barreau de Paris, activiste des droits de l'homme dont on a senti la passion, et Claudine, bénévole au Secours catholique, qui donne beaucoup de sa retraite pour pouvoir aider des personnes après une vie en préfecture. À la technique aujourd'hui, c'était Gary, rédacteur en chef du Chiffon, présenté par votre fidèle serviteur Paul. On se retrouve tous les deuxièmes samedis du mois pour le Chiffon qui radote. Et d'ici là, écrivez-nous de grâce, faites-nous part surtout de vos coups de cœur, de vos idées de sujets. Vous avez encore 2 mois pour écrire dans notre numéro d'été. Ce journal n'existe que par la passion de ses petites mains. Alors si vous avez des mains et que vous êtes passionné, venez nous rejoindre. Et je vous quitte avec un choix musical qui n'est absolument pas anodin, car un instant de nostalgie d'une époque que je n'ai moi-même pas connue, celle où c'était les Italiens qui représentaient la figure de l'étranger. Alors avant, vous vous souvenez peut-être de Claude Barzotti, et c'est un choix qui n'a rien d'anodin, car la figure de l'Italien donc concentrait tous les clichés dans les années 50, alors qu'aujourd'hui ils sont bien incorporés. Donc avant de se reporter sur ce que nous connaissons aujourd'hui, à l'époque ce n'était ni le taux de mélanine ni la religion qui était en question, mais la seule altérité géographique. Et je vous quitte là-dessus. On ferme les yeux et on fait un bond de 40 ans en arrière. Claude Barzotti, le Rital.
À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. J'aime les amandes de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Turin, Rome, c'est Tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouve hélas à Paris. Mes yeux délavés par les pluies de vos automnes et de nos nuits et par vos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourci en détour, j'ai toujours fait l'aller-retour. Je suis Rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, mais ma musique est italienne. Je suis Rital dans mes colères, dans mes douceurs et mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis Rital et je le reste. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété. J'ai les cheveux couleur corbeau. Mon nom à moi c'est Barzotti et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est, bien sûr, modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Voici le programme des animations proposées par la librairie Publico pour ce mois de mars. La librairie Publico, c'est 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris, métro République, Oberkampf ou Fille du Calvaire. Ce mois-ci, l'émission Femmes Libres sur Radio Libertaire, le groupe Pierre Bénard de la Fédération anarchiste et la librairie Publico vous propose un mois de mars résolument féministe. À partir de ce mardi 7 mars et jusqu'à la fin du mois, la librairie Publico vous propose une exposition de portraits de Communardo Pastel réalisée par la graphiste et illustratrice Isabelle Abivène. Ces portraits constituent une réalisation artistique unique établie à partir d'une documentation iconographique et accompagnée des notes biographiques de Lila Vautel. Donc, à partir de mardi et jusqu'à la fin du mois, jeudi 9 mars à 19h30, une animation intitulée « Libération sexuelle ». C'est l'histoire des pensées féministes et queer sur la sexualité, proposée par Cornelia Moser, un livre édité à La Découverte en 2022. La sexualité est une question centrale pour les féministes, comme pour les mouvements LGBTQ, désir, plaisir, maternité, mais aussi violence et consentement. Ce sera le thème donc de rencontre-débat du jeudi 9 mars à 19h30. Le vendredi 10 mars à 18h30, ça sera l'occasion du vernissage de l'exposition Portrait de Communard que vous pourrez voir à partir du 7 mars. Le samedi 11 mars à 16h, vous avez rendez-vous avec Fanchon Damers pour un concert intitulé Terre Libre où Fanchon Damers chante Raoul Van Eghem. Elle sera accompagnée par Jacques-Yvan Duchesne. Chaque lieu, arraché à l'emprise des psychopathes qui nous gouvernent, est un havre de joie et de santé. Notre force, c'est l'entraide et la conscience que rien ne vient à bout de la vie. Voilà l'invite à venir écouter Fanchon Damers qui chante donc Raoul Van Eghem samedi 11 mars à 16h. Le samedi 16 mars à 19h30, Gun and Roses, les objets de lutte féministe. C'est un ouvrage de Mathilde Larère, publié aux éditions du Détour en 2022. Des objets convoités, détruits ou brandis pour tous les combats, égalité, droit de vote, libre disposition de son corps, contre les violences ou dans les luttes de travailleuses ou de ménagères. Jeudi 19 mars à 19h30, donc le livre Gun and Roses, les objets de la lutte féministe. Le mardi 18 mars à 16h, ce sera un concert. Yann Alexander chante Catherine Ribeiro. Yann interprète à sa manière les chansons de Catherine Ribeiro, surnommée la Passionaria Rouge des années 70. On y retrouvera quelques pépites du patrimoine francophone, Paix, Soleil, L'enfant du soleil couchant ou encore Jusqu'à ce que la force de t'aimer me mente. Ce sera donc Yann Alexander qui chante Catherine Ribeiro le samedi 18 mars à 16h. Vendredi 24 mars à 19h30, on vous propose un recueil de poèmes et de dessins qui est intitulé Entre Vernon et Mantes, et c'est un travail de Marie-Claire Calmu publié aux éditions Edinter en 2023. Entre Vernon et Mantes, entre fleuve et colline, la rêverie et la contemplation nourrissent l'imaginaire. Et à travers la mélancolie, un certain humour, la joie d'être comme les animaux et les arbres, pleinement vivante. Ce sera donc un ouvrage de poésie de Marie-Claire Calmus, Vernon et Mantes, vendredi 24 mars à 19h30. Le lendemain, samedi 25 mars, de 18h à 22h, Girls in Noise, un DJ set libertaire et féministe du collectif MQM. Rebelles du rock, antisexistes, militantes punk, rap et Riot Girls, les féministes de tous les continents joueront sur les platines des Riot Girls à Oumousangaré. Elle change le monde en musique. Ce sera donc pour conclure ce très riche mois de mars féministe à la librairie Publico, le samedi 25 mars de 18h à 22h, Girls in Noise. Je vous rappelle que la librairie Publico se trouve 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement de Paris. Et en dehors de ces animations, la librairie est ouverte du mardi au vendredi et le dimanche de 13h à 19h30 et le samedi de 10h à 19h30. Et pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la librairie Publico, librairie-publico.info.
Le concert de cet après-midi à Publico est annulé.